L'endettement insupportable de la Grèce est le fruit de la politique des banques. Après la crise des subprimes de 2008, les banques cherchèrent de nouveaux marchés, des placements sûrs. Ils trouvèrent avec les demandes d'emprunt des États, et en particulier ceux de la zone euro, de nouvelles possibilités d'investissement et de spéculation. Mais lorsqu'en 2009, en octobre, après les mésaventures de l'Irlande, Papandréou, le nouveau Premier ministre socialiste, annonça que le déficit de son pays allait être deux fois plus important que prévu, il déclencha la panique des marchés. Alors que la Grèce empruntait jusque-là au même taux que l'Allemagne ou la France, les taux augmentèrent car, dans l'affolement, les investisseurs vendirent leurs titres de l'État grec, mouvement que les spéculateurs accentuèrent. En quelques mois, l'endettement atteint des sommes encore plus faramineuses, car à la dette proprement dite s'ajoutèrent des intérêts de plus en plus importants. En avril 2010, le gouvernement, bien qu'ayant déjà pris des mesures d'austérité draconiennes, en fut réduit à demander l'aide de l'Europe pour faire baisser les taux usuraires auxquels il empruntait. Quelques semaines plus tard, l'État grec se retrouvait sous la coupe de la Troïka, le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Cependant, si la position subalterne de la bourgeoisie grecque la place sous la férule de ses consoeurs plus puissantes, cette politique de la Troïka se fait avec l'accord de la bourgeoisie grecque et de son État. L'économie grecque et son administration sont désormais complètement et légalement, pourrait-on dire, soumises au contrôle des institutions financières de la bourgeoisie impérialiste. En échange du déblocage de 110 milliards d'euros sur 3 ans, un plan d'austérité encore plus violent était défini conjointement par l'État grec et la Troïka. Ils étaient dorénavant surveillés par une centaine de représentants de la Troïka qui, depuis, scrutent les comptes du gouvernement grec tous les 3 mois et vérifient que les coupes sombres sont menées à leur terme. Pour faire accepter le plan de la Troïka au Parlement, Papandréou annonça l'organisation d'un référendum. Il tentait ainsi de sauver son gouvernement, mais c'était sans compter le rapport de force entre la Grèce d'un côté et l'Allemagne et la France de l'autre. Cette annonce déclencha une campagne virulente des gouvernements de la zone euro, relayée par la presse. Le Bild, journal allemand populaire de droite, écrivait à longueur de colonne des propos du genre, je le cite, hein, « Nous garantissons des centaines de milliards d'euros pour sauver les Grecs en faillite, et maintenant, ils veulent d'abord décider par référendum s'ils vont faire des économies. » Sous la menace de bloquer les crédits et dans une atmosphère survoltée, Papandréou renonça et démissionna au profit d'un gouvernement d'union nationale, incluant des ministres du Laos, un parti d'extrême droite. Le poste de Premier ministre échut à Papademos, ex-président de la Banque centrale en Grèce et vice-président de la BCE de 2002 à 2010. Ce premier plan ne suffisant pas, il fut suivi d'un deuxième. 100 milliards et une restructuration de la dette grecque furent accordées cette fois-ci. Des représentants des grandes banques européennes et en particulier françaises, engagées sur le marché de la dette grecque, y furent associés de façon à pouvoir peser et défendre leurs intérêts. Une partie des dettes dues aux services privés a donc été renégociée et les titres furent remplacés par d'autres d'un taux plus faible et à une échéance repoussée à 5 ans. Les banques n'ont rien perdu dans cette négociation. Elles ont simplement renoncé à une part des sommes qu'elles comptaient soutirer à l'État grec. De plus, elles ont obtenu de pouvoir payer avec leurs nouveaux titres de dette les biens ou les entreprises que la Grèce prévoit de privatiser. Autant dire que l'État ne recevra rien en échange de ces privatisations. Contrairement à la propagande qui laisse parfois développer, les États français et allemands, les plus gros contributeurs de ces plans, perdent peu, parce que la méfiance envers la situation de l'État grec, espagnol et autres leur permet d'emprunter à des taux très bas voire nul. La bourgeoisie grecque est plus faible que celle de l'Allemagne, de la France ou même de l'Italie, mais elle est tout autant intéressée aux plans qui y sont mis en place. Sa flotte marchande est la première du monde en tonnage. Les trois plus grands armateurs grecs, Angelikoulis, Procopiou ou Economou, contrôlent une part non négligeable du commerce international, mais certains ont su aussi diversifier leurs affaires entre l'immobilier, le pétrole, la finance. Ainsi, Spiro Latsis possède 40% de la troisième banque du pays. Ces grands groupes, associés à la grande bourgeoisie grecque, profitent des subventions européennes et des plans de sauvetage. D'autre part, si les mesures d'austérité ont ruiné de nombreuses entreprises, les capitalistes grecs ont profité de la pression des marchés financiers pour accélérer les mesures anti-ouvrières et faire sauter les contraintes du Code du travail. Ils dénoncent les conventions collectives. 1 000 travailleurs sont licenciés par jour. Les salaires ont chuté sous la pression du chômage. Le nombre d'heures de travail est devenu élastique. Des accords maison qui augmentent encore l'exploitation peuvent être établis si un nombre minimal de salariés les accepte. Les jeunes sont payés moins que les salariés plus âgés. Un SMIC jeune existe. Mais au-delà de la destruction des droits des travailleurs dans les entreprises et de ces nouvelles règles, le chômage exerce une telle pression que les patrons peuvent recruter des salariés à n'importe quel prix et sous n'importe quelles conditions, et souvent sans aucun contrat pour la journée. Les salaires des fonctionnaires ont été baissés à plusieurs reprises. Le 13e et 14e mois de salaire dans la fonction publique, qui compensait leur faible niveau, ont été supprimés. Le nombre d'heures de travail est passé de 37,5 heures par semaine à 40 heures. Sous prétexte de moderniser l'administration grecque, des fonctionnaires sont mis en disponibilité, en attente de mutation, leur poste étant supprimé. Avant même que le gouvernement prévoie de licencier 15 000 fonctionnaires il y a quelques semaines, nombre de fonctionnaires avaient déjà été licenciés pour faute, dénoncés pour fraude ou pot de vin, alors que les ministres restent, eux, bien sûr, intouchables. L'âge de la retraite a été reculé pour l'ensemble des travailleurs du privé comme du public. Le montant des indemnités chômage a été réduit, ainsi que leur durée et leur durée. En février 2012, il a été fixé à 350 euros, quel que soit le salaire précédent, alors que près de 80% des chômeurs réels ne touchent aucune allocation. L'autre volet des attaques contre les classes populaires est lié à la baisse des budgets sociaux et de ceux qui sont consacrés à la santé et l'éducation. L'État a diminué ses dépenses de 27 milliards et ce n'est pas fini, puisque l'objectif est d'assurer encore 14 milliards d'euros d'économies d'ici 2014. Les hôpitaux ferment ou fusionnent. Les médicaments sont devenus de moins en moins accessibles, soit du fait des pénuries, les entreprises pharmaceutiques arrêtant de livrer les médicaments parce qu'elles craignent de ne pas être payées, soit parce que ces médicaments sont devenus inabordables. Le nombre de médicaments remboursés à 100% est passé de 900 à 230. Le personnel soignant, les médecins dénoncent des retards de paie. De nombreux Grecs ne peuvent plus se soigner sous l'effet des mesures d'économie et de la baisse de leurs revenus. 40% des Grecs n'ont plus d'assurance maladie. Des dentistes ferment leur cabinet faute de clientèle. Des milliers d'écoles ont été fermées, ainsi que des universités, mais aussi les lignes de transport scolaire, des cantines, faute de crédit pour les entretenir ou les maintenir. Des instituteurs racontent qu'une partie des enfants qu'ils accueillent ont faim et qu'ils ne savent plus si leur métier a encore un sens. La diminution des dépenses de l'État est sélective. La Troïka n'a rien à redire aux dépenses d'armement effectuées par la Grèce. Celle-ci était le 5e importateur d'armes du monde. Les gouvernements successifs relayés par la presse, ont toujours justifié ces dépenses par les conflits qui les opposaient à leurs voisins. Les pays impérialistes appuient cette politique de surarmement pour des raisons politiques et économiques. Ils continuent à se servir de la Grèce pour contenir la puissance régionale de la Turquie et modifier le rapport de force entre les différents États de la région. Mais aussi parce que la Grèce est un client important de la France comme de l'Allemagne. En 2010, Cohn Bendit attaqua le gouvernement français, l'accusant d'avoir conditionné son aide au paiement des contrats d'armement déjà engagés. Certes, ses dépenses ont baissé. L'État grec n'a plus les moyens d'acheter des frégates, mais qu'à cela tienne, dernièrement, le gouvernement français a transformé les achats prévus en locations. Pour augmenter ses recettes, l'État a augmenté les impôts, créé de nouvelles taxes les plus diverses. La nouvelle taxe foncière spéciale a beaucoup fait parler d'elle, car une majorité de Grecs sont propriétaires. L'État l'a adossée à la facture d'électricité pour les obliger à la payer sous peine de coupure. Cette taxe a suscité de telles protestations que le gouvernement a décidé d'en diminuer un peu son montant. Mais que ce soit du fait de cet adossement ou pour impayé, la compagnie de l'électricité grecque, la DEI, coupe l'électricité à 30 000 foyers par mois. Des groupes se sont spécialisés dans la reconnexion sauvage. Alors, lorsque la DEI s'en rend compte, elle supprime purement et simplement le compteur. L'entreprise Hellenic Petroleum, HELP, a annoncé une perte de 78 millions d'euros liée à la chute de 70% du marché du fioul domestique sous le double effet de la baisse des revenus de la population et du doublement du prix soumis à une nouvelle taxe. Cet hiver, une nouvelle pollution est apparue au-dessus d'Athènes parce que beaucoup d'habitants se chauffaient au bois. Les riches, eux, échappent globalement à l'augmentation des impôts et même à l'impôt tout court. Les vraies grandes fortunes grecques ont déjà déplacé leur argent en Angleterre ou en Suisse. Les sièges de plusieurs groupes grecs, tels que Coca-Cola, Hellenic ou Phage, ont quitté le pays pour des paradis fiscaux. D'après le Figaro, 103 entreprises grecques offshore restent inconnues des services fiscaux. La volonté du pouvoir de s'attaquer à l'exil fiscal n'existe pas. Il y a quelques mois encore, le journaliste Vaxevanis, qui avait publié la liste des exilés fiscaux auprès de la banque HSBC, était traîné en justice pour violation de la vie privée, alors que quasiment aucune des sociétés ou fortunes privées n'était inquiétée. Les bourgeois grecs considèrent, comme tous leurs homologues des autres pays, qu'ils n'ont pas à payer. Comment ose-t-on dire que nous n'aidons pas la Grèce ? Nous demander de payer des impôts pour que cet argent soit volé par les politiciens ou gaspillé par les fonctionnaires, à quoi sert-il ? Avait déclaré l'un d'eux dans la tribune. L'Église non plus ne paye quasiment pas d'impôts, ce qu'elle justifie en disant qu'elle paye son tribut à la société en distribuant des soupes populaires aux plus pauvres. La Troïka exige des privatisations pour 19 milliards d'ici 2016, milliards destinés à rembourser la dette. Les capitalistes des pays impérialistes, mais aussi grecs, se positionnent pour récupérer les entreprises rentables, les terres qu'il est possible d'exploiter pour le tourisme ou l'agriculture, et dont le gouvernement lève, sous leur pression, les limites administratives qui peuvent entraver leur exploitation. La situation de la Grèce et la récession diminue les recettes escomptées par les privatisations. À cela s'ajoute le fait que les banques peuvent y répondre avec des titres grecs qu'elles ont renégociés. De plus, l'entreprise qui, par exemple, rachètera l'EDA, la compagnie des eaux de l'Attique, pourra réclamer à l'État grec des arriérés de sa dette envers l'entreprise, diminuant d'autant sa facture. L'État va donc se déposséder de ses entreprises, de ses terres, de ses bâtiments pour une somme bien inférieure aux prévisions et l'argent récupéré ira gonfler les coffres des banques grecques ou étrangères. De nombreux conflits ont éclaté en lien avec ces privatisations. L'ancien aéroport d'Athènes, 620 hectares à l'abandon depuis 15 ans, devait être concédé pour 50 ans. Doit être. Quatre sociétés sont en lice, dont une grecque. Une fois que ce terrain, très bien placé, sera dans leur escarcelle, il deviendra inaccessible à la population. Deux consortiums, l'un dirigé par Suez et l'autre par une société israélienne spécialisée dans les eaux, sont candidats pour racheter 51% de la compagnie publique des eaux de Salonique, au nord du pays. Tous deux sont associés à des entreprises grecques. La population et des municipalités protestent depuis des mois contre cette politique qui conduira à des augmentations de tarifs de l'eau. Le port de Thessalonique fait partie des belles pièces que l'État grec met en vente parce qu'il est une porte vers les Balkans. Cette privatisation est combattue par les travailleurs du port, mais aussi par le maire de Thessalonique, qui réclame que ce port soit au moins en concession partielle. Les investisseurs comptent faire des affaires. Un fonds spéculatif, Drome Capital, vient de créer un fonds d'investissement de 200 millions d'euros, somme encore modeste, uniquement destinée à la Grèce. Il promet cependant d'en tirer 100% de profit. Le projet Hélios est aussi assez parlant. Étant fortement ensoleillé, la Grèce produira de l'électricité solaire exploitée par des sociétés allemandes, financée par des prêts européens à la Grèce et destinée à l'exportation. Le petit engouement de certains bourgeois pour la Grèce est aussi lié à la perspective d'avoir à disposition une main-d'œuvre qualifiée et sous-payée. La gestion d'une partie du port de Pirée par COSCO, une société chinoise, est désormais montrée en exemple par le monde des affaires pour l'exploitation accrue qu'elle a su imposer. L'objectif des patrons est de faire tomber les salaires jusqu'à 200 euros, alors qu'une partie des salariés en sont déjà réduits à 300 euros net par mois. La population, la classe ouvrière, ne se sont pas laissés faire sans réagir. Dès février 2010, les travailleurs se sont engagés dans des grèves d'ampleur, des manifestations. Les années 2011 et 2012 ont été marquées par de nombreuses journées de grève générale, appelées par les centrales syndicales, dont un des mots d'ordre en septembre dernier était « SOS, sauver le pays, mais par-dessus tout, son peuple », qui est révélateur de la façon de raisonner. Les manifestations deviennent des démonstrations du mécontentement, mais pas des étapes d'une lutte pour faire reculer le patronat et le gouvernement. Le syndicat des travailleurs du privé, la GSEE, est dirigé par des représentants des partis, de la droite aux différents partis de gauche, au prorata de leur influence respective. Les socialistes y sont majoritaires. Ce syndicat, dont la direction est liée au parti au pouvoir, ne propose aucune politique générale et pour cause. Cela conduit à un éparpillement des luttes. Chaque catégorie fait grève et défile pour ses propres revendications. Les paysans contre les impôts, les professions libérales et les petits patrons contre les taxes, la population ou les employés d'une entreprise d'État contre la privatisation, des médecins pour réclamer leur salaire, des ouvriers contre les nouvelles baisses de salaire, les licenciements, etc. Bien que toutes ces catégories soient frappées par un même mal, le pays semble secoué par de multiples luttes sans lien entre elles. Les grèves et la colère qui poussent des groupes à agir successivement contre le paiement des péages, les coupures d'électricité, sont un gage pour l'avenir, si elles réussissent à devenir les composantes d'une même lutte. Même si ces luttes connaissent des hauts et des bas, il semble de loin que ce ne soit pas tant la combativité qui manque, mais des perspectives politiques, des objectifs qui prennent en compte les intérêts matériels et politiques de la classe ouvrière dans ce contexte de crise. Le drame du prolétariat grec, qu'il partage avec bien d'autres, est l'absence d'une force politique qui défende de tels objectifs. Alors la crise politique, économique, pardon, a provoqué une crise politique. Le PASOK a perdu 30% de son électorat. La droite, Nouvelle Démocratie, plus de 20%. Mais ce sont toujours quasiment les mêmes qui dirigent le pays. Ces gouvernements usent et abusent des arguments que leur servent les banquiers, ou vous imposez à votre population ces mesures d'austérité, où les institutions financières ne vous prêteront plus les sommes nécessaires pour payer vos échéances et l'État grec fera faillite. Mais dans tous les cas, la population doit payer. Non content de se livrer à ce chantage, il n'hésite pas à faire porter la faute sur la population, l'accusant d'avoir voulu devenir fonctionnaire. « On vous a titularisé », déclarait Pangalos en tant que ministre socialiste. Ce langage a de quoi ulcérer la population. Alors, un certain nombre d'électeurs répondent à cette désillusion par l'abstention. D'autres se tournent vers le vote en faveur du parti d'extrême droite Aube Dorée ou à gauche sur Syriza, un parti qui ressemble au Front de gauche. Ce sont les seuls partis qui, au Parlement, ne voient pas leurs parlementaires quitter leur rang, mais d'autres les rejoindre. Le désespoir et l'absence de perspective peuvent favoriser l'extrême droite. Le premier à en profiter a été le Laos, alerte populaire orthodoxe. Il a obtenu des ministres en 2010. Mais l'exercice du pouvoir, aux côtés de partis traditionnels déjà usés, l'a desservi. Aube Dorée, qui existe depuis 1993, a pris la place. Il se veut à la limite de la légalité. Pendant la campagne, un de leurs candidats déclarait « Nous sommes prêts à ouvrir des fours, nous en ferons des savons pour laver les trottoirs. » Un autre député, « La prochaine fois que nous ferons une descente sur un marché pour contrôler les vendeurs étrangers, on ne fera pas que donner des coups de latte dans les étalages, il faut bien qu'on se fasse plaisir aussi. » Il explique aussi que les Grecs, au lieu de se suicider, feraient mieux de tuer ceux qui sont responsables de leurs problèmes, en désignant les banquiers. L'extrême droite exploite les idées qui plaisent, dénonçant pêle-mêle les financiers et les immigrés. Son leader, Mikaloliakos, dont le frère est le numéro 3 de l'armée grecque, avait 10 ans lorsque les colonels ont pris le pouvoir. Envoyé en prison pour détention illégale d'explosifs après 1974, il y côtoya des ex-putschistes. Les liens entre l'appareil d'État et son parti sont visibles par la protection dont ils profitent lors de leurs expéditions parfois meurtrières contre les immigrés ou les militants de gauche. La complaisance du gouvernement envers leurs militants, malgré les quelques récriminations de l'Europe, exprime la méfiance de la bourgeoisie envers la classe ouvrière. Celle-ci sait qu'elle pourrait bien avoir besoin de lâcher contre les travailleurs ses bandes armées si elle ne parvenait pas à maintenir l'ordre par les moyens classiques de répression. Mais la montée de l'extrême droite fait déjà pression sur la vie politique. Quelques semaines après leur entrée au sein du gouvernement, avec l'opération Xenoxus, le gouvernement lâchait 5000 policiers à Athènes chargés d'arrêter les immigrés en situation illégale. 1500 d'entre eux ont été expulsés. Aucun des partis ou courants qui militent dans les milieux populaires ne s'adresse à la classe ouvrière en tant que telle et avec une politique de classe. Aucun de ces partis ne se préoccupe d'exprimer le fait que la situation de la Grèce est la conséquence de la crise du système capitaliste, que l'enjeu est d'empêcher la bourgeoisie d'écraser la population pour sauver ses profits et non pas de trouver une solution à la crise. Aucun ne voit dans l'organisation et les combats de la classe ouvrière la seule issue qui ouvre une perspective. Les partis qui existent à gauche du PASOK sont issus de l'ex-parti communiste grec. Or, l'histoire du mouvement ouvrier grec que je viens d'évoquer montre la faillite totale de ce parti, le KKE, qui, lorsqu'il avait du crédit parmi les exploités, l'a gaspillé pour servir les intérêts de la bourgeoisie. Les partis issus de ce sérail ne peuvent pas offrir davantage de perspectives à la classe ouvrière en Grèce comme ailleurs. Le KKE, qui s'est reconstitué après la chute de la junte sur la base des militants communistes de retour d'exil, est resté stalinien. Ce parti est celui qui a gardé le plus de liens avec la classe ouvrière, en particulier parmi les dockers et les marins. Mais quelle confiance peut-il inspirer sur la base de son bilan passé ? Il n'a jamais représenté la classe ouvrière lorsqu'il avait suffisamment de troupes. Et depuis, il a connu une série de revirements jusqu'à gouverner quelques mois avec la droite en 1989. Aujourd'hui, il se prétend radical, ce qui signifie concrètement refuser toute alliance et en particulier avec Syriza. Les travailleurs qu'il organise au sein d'une fraction syndicale de la Confédération syndicale des travailleurs du privé, le PAMÉ, manifestent à part et peuvent représenter jusqu'à un tiers des manifestants. Son mot d'ordre aux dernières législatives en juin 2012 était « sortir de l'Union européenne avec le pouvoir populaire et l'annulation unilatérale de la dette ». Que signifie le pouvoir populaire ? La revendication principale des travailleurs doit-elle être la sortie de l'Europe ? Le parti à gauche du PASOK qui rencontre le plus de succès électoral est donc le regroupement de 17 partis, Syriza. Il est lui aussi issu des rangs des communistes, mais de ceux qui ont appartenu au KKE de l'intérieur et qui ont adopté un point de vue social-démocrate dans les années 70, au point de n'avoir plus de lien avec la classe ouvrière. En 3 ans, il est passé de 6% à 26% aux dernières législatives de juin 2012. Il ne lui a manqué que quelques pourcents pour devenir le premier parti. Son représentant est Tsipras, un ingénieur de 30 ans, député depuis 2009. Il a commencé sa vie politique au sein des jeunesses communistes du KKE, mais ce n'étaient pas les possibilités du prolétariat qu'il y a appris et retenu. Après ses derniers succès électoraux, il déclarait, je le cite, « En ces temps de crise, la résistance et la solidarité sont toutes deux nécessaires, mais la solidarité est plus importante. » Syriza oriente ses militants vers la constitution d'épiceries sociales ou de bourses de médicaments, et son objectif se limite à gagner les élections. Il appelle aux manifestations, mais les réactions de la classe ouvrière restent secondaires pour lui. Devant l'incapacité de contrer les attaques de la bourgeoisie, alors que le choix s'offre entre un parti sectaire et stalinien et un autre réformiste, une partie de la jeunesse recherche des actions pseudo-radicales. Une toute petite minorité d'anarchistes organise des attentats qui visent depuis quelques mois les sièges des partis. Ces actions ne modifient pas le rapport de force et ne permettent pas d'acquérir la conscience nécessaire pour se défendre. Mais elles servent de prétexte à une aggravation de la répression. D'autres sont attirés par une propagande basée sur les idées décroissantes. En somme, dans le contexte de la Grèce, cela signifie demander aux exploités d'accepter les coups et de remercier de surcroît ceux qui les leur portent. La politique décroissante est déjà appliquée, la bourgeoisie s'en charge. De nombreux Grecs sont retournés dans les campagnes pour vivre d'un lopin de terre ou créer une petite communauté qui leur permet de survivre en mettant en commun leurs faibles moyens. Si la solidarité imposée par la détresse dans laquelle sont plongés les Grecs leur fait découvrir une autre façon de vivre qui leur permet dans une certaine mesure d'échapper à la pression de l'État, elle représente un recul considérable. Il faut une dose de bêtise pour penser que les exploités des villes où vivent plus de 60% de la population pourraient trouver à la campagne de quoi tous survivre. Pour voir dans cette évolution de retour à la nature une perspective, il faut vraiment avoir des idées réactionnaires. L'axe du KKE, de Syriza et même d'autres courants d'extrême gauche au sein de Syriza ou non, tourne autour de la question de l'annulation partielle ou totale de la dette. Syriza, en particulier, présente un programme de gouvernement. Il promet de dénoncer les accords avec la Troïka, de demander un audit de la dette, une annulation sélective de cette dette, sa renégociation, ainsi qu'un moratoire sur son remboursement. L'allègement de la dette en est le point central. Syriza propose d'ailleurs, pour réduire le niveau d'endettement de la Grèce, d'imposer à l'Allemagne de payer les réparations dues au titre de l'occupation par l'armée allemande et dont elle n'a versé qu'une faible part, car à l'époque, le gouvernement américain tenait à ce que l'Allemagne se reconstruise rapidement pour qu'il participe à contrebalancer la puissance de l'URSS. Mais quels moyens propose-t-il pour imposer cela à l'Allemagne, à la bourgeoisie allemande et à l'État allemand? À votre bon cœur? C'est stupide, mais cela alimente des slogans nationalistes stériles. Syriza met en avant des revendications sous une forme consensuelle. Ainsi, dans son programme, pas un mot contre l'Église et sa fortune, qu'elle soit sous forme de société commerciale, d'actions, de terres et autres. Pourquoi ne pas mettre en avant l'expropriation de l'Église, celle des banques grecques ou non, pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir vivre correctement? Plus Syriza s'est retrouvé propulsé électoralement, plus il a modéré son programme. Ses formulations se sont faites plus floues. Quant aux moyens, il n'en est toujours pas question. L'annulation de la dette est une revendication que la bourgeoisie appliquera peut-être elle-même, comme elle l'a déjà fait ailleurs, car même l'usurier le plus féroce n'a pas intérêt à achever ses débiteurs. Réclamer l'annulation de la dette est donc inutile. De plus, le demander aux serviteurs du capital que constitue la Troïka, comme se propose de le faire Syriza, revient à proposer de s'adresser aux dealers pour arrêter le trafic de drogue. Tant que l'annulation de la dette est faite en faveur de la bourgeoisie, elle n'apportera rien aux plus pauvres. Le seul pays qui a réellement annulé ses dettes est la Russie soviétique, car elle l'a fait en expropriant la bourgeoisie russe et étrangère. C'était l'application d'une politique de classe poussée jusqu'à son terme que Syriza n'envisage même pas de mener. La question de la sortie de l'Europe est reprise par le KKE et des groupes d'extrême gauche comme une première mesure indispensable pour combattre ensuite le capitalisme. Mais l'Europe a mis les États les plus faibles sous la dépendance des plus puissants. Elle a codifié ses rapports au travers de règles institutionnelles. Mais ces rapports de domination s'exerceraient avec ou sans ces institutions. L'espoir d'une Grèce économiquement indépendante est un mythe. Elle a toujours été dominée par l'impérialisme. Les attaques contre l'Europe, contre la Troïka, auxquelles une partie de la population est sensible, peuvent prendre un contenu qui soit propre aux travailleurs, car la colère de la population laborieuse devant la liquidation des services publics et leur privatisation contre la vente des sites archéologiques, des plages, etc., est légitime. Elle exprime la colère contre la mainmise accrue du capitalisme sur l'économie grecque et dénonce comment les bourgeoisies, européennes ou pas, sucent le sang de la population pour maintenir et sauver leurs profits. Le choix de se focaliser sur la question de l'Europe constitue en fait une traduction nationaliste du sentiment qui règne dans la population et que de nombreux démagogues exploitent. C'est une revendication qui est reprise par des courants extrêmement divers, et en particulier l'extrême droite. Cela ne peut qu'embrayer la conscience des travailleurs. À l'inverse de l'extrême droite, les partis qui se revendiquent de la classe ouvrière ne prétendent pas que la seule sortie de la zone euro ou de l'Europe résoudrait la crise. Mais en posant cette revendication comme une première étape indispensable, en utilisant leurs forces militantes sur ce terrain, ils perdent un temps précieux qu'ils pourraient utiliser à développer les revendications indispensables à la survie des classes populaires. La force de la bourgeoisie, en tant que classe au pouvoir, est suffisamment importante pour digérer tous les partis ou organisations qui reprendraient à leur compte, ne serait-ce qu'une mesure acceptable par elles. En défendant la renégociation ou l'annulation de la dette, ces partis reprennent l'inidée qu'une partie des courants bourgeois partagent, ceux qui auraient intérêt à ce que la Grèce sorte de l'Union européenne. En préservant les intérêts d'une fraction de la bourgeoisie, ils abandonnent le terrain de la classe ouvrière. D'ici, au travers des reportages des médias, le sentiment qu'éprouve une fraction de la population de ne pouvoir répondre au coup parce que personne ne propose une politique pour unifier les luttes ressort clairement. Et même si ce sont rarement les travailleurs que nous pouvons entendre, le fait que des intellectuels expriment ce manque à leur façon montre à quel point un parti communiste révolutionnaire est indispensable. En tentant de résister aux coups de façon dispersée, les travailleurs n'apparaissent pas politiquement en tant que classe. Mais dans le passé, face à des situations aussi dramatiques, lors de la Révolution russe, les travailleurs, bien que très minoritaires, parce qu'ils avaient conscience de leur force, ont pu entraîner l'ensemble des exploités derrière une politique dont l'objectif était la survie des classes populaires. Trotsky écrivait dans le programme de transition en 1938, je le cite, « Les masses sont contraintes de défendre leur morceau de pain, même si elles ne peuvent l'augmenter ou l'améliorer. Il n'y a ni possibilité ni besoin d'énumérer ici les diverses revendications partielles qui surgissent chaque fois des circonstances nationales, locales, professionnelles. Mais deux mots économiques fondamentaux dans lesquels se résume l'absurdité croissante du régime du système capitaliste, à savoir le chômage et la cherté de la vie, exigent des mots d'ordre et des méthodes de lutte généralisées. » Il ajoutait quelques lignes plus loin. Sous peine de se vouer lui-même à la dégénérescence, le prolétariat ne peut trop tolérer la transformation d'une partie croissante des ouvriers en chômeurs chroniques, en miséreux vivant des miettes d'une société en décomposition. Dans le chaos de la société grecque, l'enjeu est l'émergence d'une force politique qui se fixe pour but, non pas de trouver des solutions à la crise, mais d'empêcher la seule classe de la société qui soit productive de tomber dans la déchéance. Bien sûr, cette force politique se placerait à contre-courant du reste des partis politiques de gauche et de leurs discours réformistes sur la dette et sur l'Europe. Elle incarnerait la conscience indispensable pour que le courage, la combativité des masses ne soient pas perdus inutilement. Nous ne militons pas en Grèce. Nous ne pouvons définir une politique qui n'aurait de sens qu'à condition de la mettre en pratique et de la faire évoluer au quotidien. Mais le fait que ces partis de gauche et d'extrême gauche ne voient pas la crise que traverse le pays comme un affrontement entre la bourgeoisie et le monde du travail les réduit à n'être qu'un courant bourgeois de plus. Ce qui se passe en Grèce peut et doit nous servir d'avertissement parce que nous risquons de nous trouver confrontés à la même situation que les travailleurs grecs. La crise s'accélère. Elle a de multiples conséquences, matérielles d'abord en appauvrissant une partie importante des travailleurs, mais aussi politiques, car il ne suffit pas que les travailleurs se battent. S'ils ne le font pas avec une perspective juste, ils ne peuvent pas aboutir. Leurs échecs peuvent aussi conduire à d'autres catastrophes. En Grèce, la menace la plus évidente aujourd'hui est celle d'organisations d'extrême droite. Mais la classe ouvrière n'est pas à l'abri d'un coup d'État et de l'instauration d'une dictature militaire, même si le pays est intégré à l'Union européenne. La crise rend tangible et aggrave toutes ces menaces. Et en tant que communistes révolutionnaires, nous avons comme espoir qu'une nouvelle génération de militants s'éveille, une génération qui rompe avec les politiques staliniennes ou réformistes, qui comprennent l'impasse de ces partis, que ces partis représentent, et qui retrouve le chemin des luttes.